Mes amis, 2. J'habite à Montrouge. Les immeubles neufs de ma rue sentent encore la pierre sciée. Ma maison, elle, n'est pas neuve. Le plâtre de la façade tombe par morceaux. Des barres d'appui traversent les fenêtres. Le toit sert de plafond au dernier étage. Un crochet retient chaque volet au mur quand il ne vente pas. L'architecte n'a pas gravé son nom au-dessus du numéro. Le matin, la rue est calme. Une concierge balaie, devant sa porte seulement. En passant près d'elle, je respire du nez à cause de la poussière. Par les fenêtres entrebâillées, j'épie les rez-de-chaussée. Je vois des plantes vertes qui viennent d'être arrosées, des douilles d'obus rutilantes et des lames de parquet étroites, cirées, qui font des zigzags. Quand mon regard rencontre celui d'un locataire, je suis gêné. Parfois, un linge blanc bouge derrière un rideau à hauteur d'homme. Quelqu'un se lave. Je prends mon café à côté de chez moi, dans un estaminet. Le zinc du comptoir est ondulé, au bord. On devine l'âge du bois sur le plancher lavé à l'eau claire. Un phonographe, qui marchait avant la guerre, est tourné vers le mur. On se demande ce qu'il fait là, puisqu'il ne fonctionne pas. Le patron est aimable. Il est petit comme un soldat en queue de section. Il a un œil de verre qui imite si bien l'œil vrai que je ne sais jamais quel est le bon, ce qui est ennuyeux. Il me semble qu'il se vexe quand je regarde son œil faux. Il m'a assuré qu'il avait été blessé à la guerre. Pourtant, on dit qu'il était déjà borgne en 1914. Le brave homme se plaint continuellement. Le commerce ne va plus. Il a beau essuyer les verres devant les clients, il a beau dire « Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Laissez la porte. Personne ne vient. » Il voudrait que la guerre fût oubliée. Il regrette l'année 1910. À cette époque, paraît-il, les gens étaient honnêtes, sociables. L'armée avait de l'allure. On pouvait faire du crédit. On s'intéressait aux problèmes sociaux. Quand il parle de tout cela, ses deux yeux, le vrai et le faux, se mouillent et ses cils s'unissent par petites mèches. L'avant-guerre a sombré si vite qu'il ne peut croire qu'elle n'est plus qu'un souvenir. Nous aussi, nous abordons les problèmes sociaux. Il y tient. C'est la preuve pour lui-même que la guerre ne l'a pas changé. Il me certifie chaque jour qu'en Allemagne, pays mieux organisé que le nôtre, les mendiants n'existent pas. Les ministres français devraient interdire la mendicité. Mais elle est interdite. Allons donc, et tous ces gueux qui vendent des lacets, ils sont plus riches que vous et moi. Comme je n'aime pas les disputes, je me garde bien de répondre. J'avale mon café, qu'une goutte de lait a rendu marron. Je paie et je sors. À demain, crie-t-il en plaçant ma tasse encore chaude sous un filet d'eau qu'on ne peut arrêter qu'à la cave. Plus loin se trouve une épicerie. Le patron me connaît. Il est si gras que son tablier est plus court devant que derrière. On voit la peau sous ses cheveux en brosse. Sa moustache, à l'américaine, lui bouche les narines et doit l'empêcher de respirer du nez. Devant son magasin, il y a un étalage étroit, c'est plus prudent, composé de sacs de lentilles, de pruneaux et de bocaux de bonbons. Pour servir, il sort, mais il pèse à l'intérieur. Jadis, quand il se tenait sur le pas de la porte, nous causions. Il me demandait si j'avais trouvé quelque chose, ou bien il m'assurait que ma mine était excellente. Puis, il rentrait en me faisant avec la main un signe qui signifiait « à une autre fois ». Un jour, il me pria de l'aider à porter une caisse. J'aurais volontiers consenti, mais j'ai toujours craint les hernies. Je refusais en balbutiant Je ne suis pas fort, je suis un grand blessé. » Depuis cet incident, il ne m'adresse plus la parole. Il y a aussi une boucherie dans ma rue. Des quartiers de viande pendent par un tendon à des crochets argentés. L'établi est usé au milieu comme une marche. Des filets de bœuf liés saignent sur du papier jaune. La sure se colle aux pieds des clients. Les poids fourbis sont alignés par ordre de grandeur. Il y a une grille, comme si on craignait que la viande ne s'échappât. Le soir, je vois, au travers de cette grille peinte en rouge, des plantes vertes sur le marbre nu de la devanture. Le patron de cette boucherie ne se souvient pas de moi. Je n'ai acheté que 4 sous de déchets pour un chat galeux l'année dernière. La boulangerie est bien tenue. Chaque matin, une jeune fille lave la devanture. Des filets d'eau suivent la pente du trottoir. Au travers de la vitrine, on voit la boutique tout entière avec ses glaces, ses boiseries Louis XV et ses gâteaux sur des assiettes de fil de fer. Bien que cette boulangerie ne soit fréquentée que par des gens aisés, je fais partie de sa clientèle, le pain coûtant partout le même prix. Souvent, je m'arrête devant une mercerie où les gamins du quartier achètent des amorces. Dehors, sur une table, il y a des journaux pliés dont on ne peut lire que la moitié du titre. Seul, l'Excelsior pend comme une nappe. Je regarde les images. Les clichés trop grands représentent toujours la même chose, un ring, un revolver avec ses douilles. Dès que la mercière me voit arriver, elle sort de sa boutique. Une odeur de jouets peints et de coton neuf l'accompagne. Elle est maigre et vieille. Les verres de ses lunettes ressemblent à des loupes. Un filet de bonne d'enfant emprisonne son chignon sec. Les lèvres sont rentrées dans sa bouche et n'en sortent plus. Son tablier noir moule un ventre qui n'est pas à sa place. Pour changer 5 francs, elle disparaît dans l'arrière-boutique. Je lui demande comment elle se porte. Ce serait trop impoli de ne pas me répondre. Aussi, elle branle la tête. La porte qu'elle a laissée ouverte me fait comprendre qu'elle attend mon départ. Un jour, j'ai soulevé le journal pour lire de petits caractères. Elle m'a dit d'un ton mauvais « Il coûte 3 sous ». J'eus envie de lui apprendre que j'avais fait la guerre, que j'étais gravement blessé, que j'avais la médaille militaire, que je touchais une pension. Mais je compris tout de suite que c'était inutile. En partant, j'ai entendu la porte qui se refermait avec un bruit de garde-boue. Je suis obligé de passer devant la laiterie où travaille ma voisine. Cela m'ennuie, car celle-ci a certainement ébruité ma déclaration d'amour. On doit se moquer de moi. Aussi, je marche vite, discernant dans un coup d'œil des mottes de beurre striées par un fil, des paysages sur les couvercles de camembert et un filet sur les œufs à cause des voleurs.